journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Deal ou no deal, il pourrait s'agir d'un Brexit flou. Les discussions entre Européens et Britanniques se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute et à l'instant, un communiqué vient d'être publié à l'issue d'un entretien entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique annoncent la poursuite des négociations sur un accord post-Brexit. Nous serons dans un instant avec Angélique Bouin à Bruxelles, Richard Place à Londres, invité de ce jour-là, de ce journal, John Henley, correspondant Europe du Guardian. L'Allemagne reconfine partiellement. La pandémie est hors de contrôle dans certains Länder. Angela Merkel annonce la fermeture des commerces et des écoles à partir de mercredi en France, avant les opérations de dépistage massif. La Corse impose le test obligatoire pour les fêtes de fin d'année. Dans ce journal également, les consignes de restriction allégées dans les EHPAD. Les résidents pourront passer Noël en famille. Et puis, nous irons à Saint-Raphaël au championnat de France de natation. La météo, temps perturbé sur le nord, ensoleillé près de la Méditerranée avec toujours des risques de crues dans le sud-ouest. Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Dernières heures très agitées dans les négociations post-Brexit entre les Européens et les Britanniques. On a annoncé la journée cruciale pour parvenir à un accord commercial ou pas et mettre fin aux négociations. Eh bien, le jour J pour un deal ou un no deal va se prolonger. Les discussions sur un accord post-Brexit vont se poursuivre. On l'a appris à l'instant dans un communiqué. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se sont parlé longuement ce matin en direct de Bruxelles. On retrouve notre correspondante Angélique Bouin. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Alors le communiqué est tombé, les discussions qui se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute vont continuer après la dernière minute.
Eh oui, c'est ce que déclare Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Nous avons eu un coup de fil utile ce matin, dit-elle. Nous avons discuté des principaux sujets non résolus. Nos équipes de négociation ont travaillé jour et nuit et malgré l'épuisement, ajoute-t-elle, après presque un an de négociation, malgré le fait que les délais sont dépassés, nous pensons qu'il est responsable à ce stade d'aller plus loin. Voilà pour cette déclaration. Les négociations continuent alors que les blocages persistent, on le sait, en particulier sur les conditions en échange desquelles les Britanniques pourraient continuer à vendre sans contrainte leurs marchandises dans le marché unique, sur la pêche également. Alors le Britannique Boris Johnson a-t-il fait évoluer sa position? Les Européens qui ne cessaient de dire qu'ils avaient été au bout des concessions possibles, notamment sur les questions de concurrence, ont-ils encore quelques cartouches dans leur manche pour éviter cette absence d'accord tant redoutée par les milieux économiques? En tout cas, un nœud semble s'être dénoué, la saga continue.
Alors Angélique, il n'empêche, tout le monde a en tête un échec des négociations et se prépare en cas de no deal.
Et oui, on accélère quand même les préparatifs, c'est dans 3 semaines. La Commission a proposé, par exemple à Londres, de maintenir quelques mois les règlements administratifs qui permettront aux avions, aux transporteurs routiers, aux bus, par exemple, de circuler entre les îles britanniques et le vieux continent à partir de janvier pour éviter toute pagaille. Pour ce qui est de la pêche, l'autre sujet très sensible des négociations et principal domaine dans lequel les Britanniques sont en position de force. La Commission a proposé de maintenir pendant un an l'accès réciproque et continu aux zones de pêche. Autant vous dire que dans le bras de fer actuel, Londres n'a pas accepté, plutôt montré ses muscles en disant vouloir envoyer sa flotte militaire pour protéger ses eaux. Vous le voyez, on ne relâche pas la pression politique.
Angélique Bouin à Bruxelles, merci. Alors cette nuit, Londres jugeait inacceptable l'offre de l'Union européenne. Les 3 points de blocage sont la pêche, Angélique nous en parlait, les droits de douane et un mécanisme futur pour régler les différends commerciaux. Et cela touche à la souveraineté britannique. Et là, le compromis est impossible. Le Royaume-Uni veut rester une nation souveraine, deal ou no deal. Londres, Richard Place.
Derrière les chiffres, les mécanismes juridiques, les discussions, il y a l'orgueil, celui d'un ancien empire colonial, d'une île souveraine, d'un royaume qui dicte ses règles et pas l'inverse. C'est en tout cas la perception des Brexiteurs durs, ceux qui ont mené cette campagne il y a 4 ans. Mais ce sentiment est enfoui depuis bien plus longtemps, toujours pour certains élus conservateurs, comme John Redwood. « Arrêtons les discussions », dit-il ce matin. Ce député est un vieux de la vieille, il a commencé sa carrière sous Margaret Thatcher et aujourd'hui, il fait partie de ceux qui mettent Boris Johnson sous pression. Hors de question de céder le moindre centimètre à l'Europe.
« Sortir sans accord, c'est ce que l'on peut faire de mieux.
On veut être un pays indépendant, c'est simple. On parle là de liberté et de droit à l'autodétermination.
La majorité ici est divisée. Certains mettent en garde contre une sortie sans accord, les milieux d'affaires également. Mais le Premier ministre doit aussi tenir compte du ras-le-bol exprimé lors du vote il y a 4 ans. La moindre concession de sa part serait jugée par certains de ses compatriotes comme une trahison. Ses prises de parole exaltent à chaque fois ce sentiment de souveraineté, cette capacité à faire seul, mieux que tout le monde. Il est donc beaucoup, peut-être même essentiellement, question de posture aujourd'hui. Londres, Richard Place, France Inter.
Invité de ce journal, John Henley, correspondant Europe, basé à Paris, du journal Le Guardian. Bonjour John Henley.
Bonjour.
Alors, votre réaction, le communiqué vient de tomber, le Brexit, les négociations pour un accord vont se poursuivre.
Oui, tout à fait, ce n'est pas vraiment une surprise, vu que les deux côtés veulent vraiment un deal. Je pense que pour tout le théâtre qu'on a vu, surtout du côté britannique ces derniers jours, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, il n'est pas stupide à ce point-là, je pense. Quelque part, il existe la compréhension qu'un no deal serait catastrophique, surtout pour l'économie du pays. En fait, ce qu'il doit faire, c'est un choix politique. Il doit peser de l'un côté le coût économique au pays d'un no deal contre, comme vient d'expliquer Richard Place, votre correspondant, contre le coût politique pour lui et pour son parti d'un deal. Parce que c'est clair que s'il revient avec un deal Boris Johnson et que la perception, c'est que ce deal représente trop de concessions à l'Union européenne, ça sera compris comme une défaite.
Alors justement, sur ce côté politique, ce bras de fer politique intérieur, ce matin, votre journal Le Guardian publie un article dans lequel les conservateurs, certains en tout cas, mettent en garde Boris Johnson contre ce chaos que vous commenciez à décrire, John Henley.
Oui, tout à fait. Faut bien dire que ce n'est qu'une partie de son parti, du parti conservateur qui met en garde Boris Johnson. C'est ce qu'on pourrait peut-être nommer le parti le plus raisonnable, le plus responsable du parti. Les Brexiteurs les plus purs et durs, comme vous venez d'entendre, John Redwood, par exemple, il cherche activement un no deal. Il considère que voilà, ça c'est le droit du Royaume-Uni, que c'est le droit du Royaume-Uni d'être un pays, comme ils disent, souverain et indépendant. Problème, évidemment, dans le 21e siècle, l'indépendance et la souveraineté absolue n'existent pas. C'est un mythe.
C'est-à-dire le no deal, le Brexit est un rêve?
Le no deal, c'est un rêve. Je veux dire, ça pourrait, ce ne serait pas un rêve si ça arrive. Il y aurait des conséquences concrètes vraiment considérables. Je veux dire, le problème, le cœur du problème, c'est que les Brexiteurs, dès le début de cette histoire, le début de la campagne pour le Brexit, ils ont promis la lune. Ils ont promis un Brexit qui n'existe pas. Ils ont promis que ce serait effectivement possible pour la Grande-Bretagne de garder tous les avantages d'être membre de l'Union européenne, surtout d'avoir un accès préférentiel au marché unique, tout en quittant le bloc. C'est évidemment pas possible et c'est là tout le cœur du problème. En fait, c'est que Boris Johnson et les Brexiteurs n'ont jamais vraiment été honnêtes, ils n'ont jamais vraiment expliqué au peuple britannique que oui, évidemment, c'est possible de quitter l'Union européenne, mais il y aura un coût.
Les conséquences, selon vous, John Henley, de ce report des négociations, en tout cas de l'Europe et les Britanniques, se donnent la possibilité de produire un ultime effort en vue d'arriver à un accord.
Oui, je pense que, écoutez, je pense que c'est clair que pour les Anglais, l'ultime deadline, c'est le 31 décembre, hein, c'est la fin de la période de transition. Le problème, c'est qu'on commence ça commence vraiment à être limite au niveau du timing, parce qu'il faut que ce deal, il soit ratifié. Il faut que ce soit ratifié par le Parlement européen, que ce soit ratifié à Londres. chambre à Westminster, et il faut évidemment que ce soit étudié vraiment soigneusement dans toutes les capitales du 27, parmi eux évidemment la France. Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes français, a déjà dit la semaine dernière que la France n'hésiterait pas à utiliser son veto si elle considérait que ce deal ne servait pas ses intérêts. En fait, le problème, c'est que les lignes rouges de l'Union européenne n'ont pas bougé depuis 2016. Je regardais ce matin, en fait, les discours prononcés par François Hollande à l'époque, de Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, qui est la seule qui reste de cette bande-là, mais ils avaient tous dit à l'époque: pas de cherry picking, donc pas de possibilité d'avoir le beurre et l'argent du beurre et reste, si les entreprises britanniques veulent l'accès, un accès préférentiel, sans tarif, sans barrière tarifaire à leurs produits, il va falloir qu'ils suivent les règles.
Et les discussions vont donc se poursuivre. Merci beaucoup, John Henley, correspondant Europe basé à Paris du journal Le Guardian. Et je vous signale sur notre site franceinter.fr la page consacrée au Brexit et notamment l'article 4 ans de négociations résumé en 5 minutes de lecture, franceinter.fr. L'Europe et l'épidémie de coronavirus en Allemagne. Angela Merkel veut durcir les mesures de restriction. La chancelière a décrété un confinement partiel. La plupart des commerces, les écoles et les crèches vont fermer à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier. Et puis en France, les opérations de dépistage massif commencent demain, d'abord au Havre, en Seine-Maritime, et à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, dans le but d'améliorer la stratégie. Tester, alerter, protéger. En Corse, le test sera obligatoire pour les fêtes de fin d'année. Les personnes qui souhaitent se rendre en Corse devront, à partir du 19 décembre, présenter un test négatif. Mesure annoncée hier par la préfecture et l'agence régionale de santé pour préserver l'île, où le taux de contamination a fortement baissé. Marie-Hélène Le Sen, directrice générale de l'ARS de Corse.
Nous présentons un taux d'incidence très très bas relativement aux régions continentales, ce qui explique que nous ayons souhaité mettre en avant cette disposition. La Corse compte 70 000 personnes âgées, 40 000 personnes en infection de longue durée, et on sait bien que ces fêtes de fin d'année vont être avant tout familiales. Donc taux d'incidence plus présence autour de la table familiale de personnes fragiles qui nous ont conduit à demander à ce que les voyageurs fassent un test 72 heures avant leur voyage, et les contrôles auront lieu à l'arrivée et au retour. Les compagnies, en fait, vont contrôler la déclaration sur l'honneur qui conditionnera finalement l'embarquement. Les contrôles auront lieu en Corse, dans les aéroports et les ports.
Dans les EHPAD, pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement a décidé hier d'assouplir les consignes et les restrictions. Les établissements sont encouragés à organiser des visites plus conviviales et permettre à plus de membres de la famille de rendre visite aux résidents. Les sorties dans la famille pour Noël notamment seront autorisées. Florence Rio, responsable de la vie sociale de la résidence de l'abbaye Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, avec Thibault Lefebvre.
C'est vital pour certains résidents de pouvoir se retrouver en famille au moment des fêtes de fin d'année, au moment de Noël. Ils sont dans un logement qui fait 20, 30, 40 mètres carrés. Enfin, c'est pas très grand, quoi. Certains ont revécu des sentiments de guerre. Et encore aujourd'hui, il y a des séquelles. Il y a une tristesse. Donc, enfin, un petit peu de liberté. Même si c'est pas simple, c'est important de le faire. Alors après, il faut prendre des mesures pour la sécurité. Mais là, on a un balancier entre la sécurité, la liberté. C'est ça qui est compliqué. La personne qui sort fait le choix de dire « moi, j'accepte d'être en isolement 7 jours, de faire un PCR pour le bien de mon voisin. J'ai pris un risque et j'accepte derrière ça d'avoir des contraintes. »
Le jeu en vaut la chandelle.
Ah oui, carrément. Un grand oui.
Florence Rio avec Thibault Lefebvre. Le compte à rebours tourne pour faire ses achats de Noël. C'est l'avant-dernier week-end, avant les fêtes. L'occasion pour beaucoup d'entre nous de finir nos achats de cadeaux en période de confinement et malgré le coronavirus, quitte à nous retrouver tous au même endroit dans les centres commerciaux. Exemple, au centre commercial Ma Petite Madeleine à Chambray-les-Tours, où les clients présents essaient d'adapter leurs habitudes avec le virus. Chloé Martin s'y est rendue hier.
Difficile d'échapper à la foule un samedi de décembre. Sofiane et sa famille s'en seraient bien passées,
mais Noël les force à faire quelques magasins.
On est bien obligé pour les enfants en ces périodes de Noël, mais on fait attention, on se protège, on essaie de respecter les distances. Puis quand il y a trop de monde, on ne va pas dans les magasins, il y a trop de monde, on repasse après. Voilà, on a aussi peur pour les enfants et pour nous.
Noémie et Florian ont pris de l'avance sur Internet pour limiter leurs sorties, mais il reste encore quelques cadeaux à trouver.
On essaie d'y aller aux horaires où il y a moins de monde, quand c'est possible.
C'est vrai que la petite Madeleine, l'après-midi, c'est pas possible qu'il y ait trop de monde. Donc plutôt le matin quand même.
On essaie de cibler ce qu'on veut et de faire le strict minimum.
On a moins traîné quand même.
Moins traîné, ouais.
Fini les sessions shopping où l'on pouvait prendre son temps. Eugénie a également changé ses habitudes.
Avant, c'est vrai qu'on prenait le temps de flâner. Maintenant, on ne le fait plus, quoi. On cible les magasins et après, on rentre à la maison. On sait forcément les magasins qu'on vient faire et puis... On ne traîne pas, on n'en fait pas d'autres de qu'est-ce qui était prévu, quoi.
Mais même en ciblant les boutiques, il faut avoir un peu de temps devant soi pour faire la queue, car le nombre de clients est toujours limité à l'intérieur des magasins.
Chloé et Martin, France Bleu Touraine. Les manifestations contre la loi sécurité globale, 120 personnes ont été placées en garde à vue à Paris, en marge du cortège parisien. Les forces de l'ordre ont saisi une centaine d'armes par destination, des tournevis, des clés à molette ou encore des mortiers. À l'étranger, un premier convoi d'aide humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge a pu arriver hier dans la province éthiopienne du Tigré. Après un mois de combat contre l'armée fédérale d'Éthiopie, une crise humanitaire de grande ampleur frappe cette région séparatiste du Tigré. Sept camions de la Croix-Rouge ont pu transporter du matériel médical à Mekele, la capitale, mais l'ensemble du Tigré reste encore inaccessible. À Addis Abeba, Noé Ouché-Baudin.
Des camions remplis de matériel médical pour soigner 400 blessés graves, des camions qui permettront surtout de désengorger le principal hôpital de Mekele, Mekele qui déborde de blessés, comme l'indique Jeremy England, le chef des opérations du Comité international de la Croix-Rouge.
Les médecins font face à des choix terribles, ils doivent trier les patients entre ceux qu'ils peuvent traiter ou non, ils choisissent en fonction du matériel restant à leur disposition, en fonction des coupures d'électricité et en fonction de leur capacité à désinfecter les outils entre les opérations.
80% des patients seraient des blessés de guerre à l'heure actuelle. Soigner est devenu presque impossible dans une ville qui manque de tout.
La ville est coupée du monde. Pas de communication, pas de ravitaillement, pas d'électricité. Et le manque d'électricité signifie aussi manque d'accès à l'eau. C'est une ville où il est actuellement très difficile de vivre.
Passé le soulagement qui accompagne ce premier convoi, Jeremy England assure que le chemin reste encore long pour les 5 millions de Tigréens pris au piège des combats.
La vraie inquiétude aujourd'hui, ce sont les hôpitaux à l'extérieur de Mekele, dans le reste de la province du Tigré, où nous n'avons même pas pu mener des opérations de reconnaissance.
En effet, le gouvernement éthiopien ne permet toujours pas aux humanitaires d'accéder aux zones de combat. Addis Abeba, Noé Ouché-Baudin, France Inter.
Et puis pour terminer, un mot de sport avec les championnats de France de natation à Saint-Raphaël dans le Var, dernière journée de compétition. Lors de ces championnats, les regards se portent notamment sur Mehdi Metella, vice-champion olympique il y a 4 ans. Mehdi Metella, opéré de l'épaule au début de l'année, a mis les bouchées doubles pour tenter de revenir à son meilleur niveau et aller aux Jeux de Tokyo. Un vrai chemin de croix, Jérôme Val.
Mehdi Metella est silencieux depuis des semaines. Pas un mot devant les micros à Saint-Raphaël. Il passe en zone mixte sans un regard. Il faut dire que le Guyanais de 28 ans démarre une course contre la montre à l'issue très incertaine. Opéré de l'épaule au début de l'année, le médaillé d'argent sur le relais 4x100 mètres à Rio avait fait une croix sur les JO de Tokyo. Puis miracle, report des Jeux et donc l'espoir renaît. Mais la rééducation est longue, la douleur toujours présente, même si ça va beaucoup mieux, reconnaît son entraîneur à Marseille, Julien Jacquier.
Il travaille encore à chaque échauffement, il a des entraînements en plus, il fait toutes les courses. Je suis ravi qu'il soit capable de le faire sans que ça lui fasse mal à l'épaule, c'est juste le début. En fait.
Retrouver les sensations, c'est un premier pas. Retrouver son meilleur niveau en est un autre, bien plus ardu. Mehdi Metella devra être patient, indique son entraîneur.
Ça pouvait pas performer tout de suite, donc d'autant plus vraiment que ça a pris du temps, donc ça fait un mois et demi qu'il est un nageur. On peut pas, après un an d'arrêt, viser plus haut que ça, je pense.
Jeudi, pour son entrée en lice dans ces championnats de France, Mehdi Metella a décroché le titre sur le 100 mètres papillon en 52 secondes 86 centièmes, une seconde de trop par rapport au minima requis pour se qualifier pour les Jeux au Japon. Saint-Raphaël, Jérôme Val, France Inter.